Étudier les langues avec podcast, un service de l'École Club Migros. La vie de Marie, un podcast au niveau A2 B1. Pour tout matériel supplémentaire, consultez notre site web www.podclub.ch.
Bonjour à tous, c'est Marie et je suis heureuse de vous accueillir sur mon podcast La vie de Marie. Aujourd'hui, 12 février, j'aimerais dans une première partie vous parler de nos mains et plus particulièrement de nos doigts, puisque dans une deuxième partie, je vous présenterai un joujou technologique à l'écran tactile. Et aussi parce que dans ma dernière partie, je vous montrerai qu'en étant manuel, on peut réaliser des choses aussi inhabituelles qu'un igloo. Vous êtes-vous lavé les mains? Allons-y. La main est pour moi la plus belle partie de notre corps. C'est d'ailleurs la première chose que je regarde chez un homme. Elles en disent long sur la vie des gens. Les fines, aux ongles propres, appartiennent aux personnes délicates, qui ont un travail plutôt intellectuel. Si elles sont épaisses et fortes, je devine un caractère volontaire. Et si elles sont blessées aux ongles un peu sales, j'ai devant moi un bricoleur. S'il y a une bague sur l'annulaire, c'est que l'homme qui la porte est marié et je passe mon chemin. L'annulaire, qu'est-ce ? C'est le quatrième doigt en partant du pouce. Mais reprenons un peu ce vocabulaire, voulez-vous ? Alors, mon premier doigt, le plus petit et le plus gros, c'est le pouce. Les petits enfants aiment bien le prendre dans leur bouche. Et si pendant leur jeu, ils le lèvent en criant « pouce », c'est qu'ils veulent faire une pause et que le jeu ne compte pas. Ce serait bien de faire « pouce » dans la vie de temps en temps, non ? C'est aussi celui-là qu'on lève en tendant le bras vers la route lorsqu'on veut faire de l'autostop. Mais souvent, jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête, on a le temps de se tourner les pouces. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire, qu'on s'ennuie. Après le pouce, c'est l'index. Il sert à montrer, à accuser aussi. D'ailleurs, l'expression « mettre à l'index » signifie « boycotter ». C'est aussi le doigt qu'on met devant la bouche pour demander le silence en faisant « pshhh ». C'est aussi celui que ma mère faisait aller de la droite vers la gauche en me grondant lorsque je montrais quelqu'un du doigt, geste qui n'est pas poli. Un autre geste vraiment impoli est celui qu'on fait avec le majeur, celui du milieu. On l'appelle ainsi car c'est le plus grand. Alors évitez de faire ce geste qu'on qualifie d'obscène. Car quand on fait un doigt, on risque bien de recevoir un poing dans la figure. Et si par malchance ce coup de poing vient d'un costaud, cela risque de faire très mal. Ensuite vient l'annulaire. Vous l'aurez compris, il porte ce nom car il porte aussi l'anneau de mariage. Enfin, le petit dernier, le plus petit, c'est l'auriculaire. Il est instinctif. D'ailleurs, quand on dit « mon petit doigt m'a dit », comprenez que c'est mon intuition qui me l'a dit. Les doigts sont à l'origine de beaucoup d'expressions. Et pour mieux vous en expliquer certaines, voici une petite histoire. Paul a demandé ma main. J'étais à deux doigts de lui dire oui. Bien sûr qu'il avait deux mains gauches, mais la choucroute qu'il préparait était à s'en lécher les doigts. C'est d'ailleurs grâce à sa cuisine qu'il m'avait séduite, les doigts dans le nez. Il savait sur le bout des doigts ce que j'aimais. Mais voilà, pour choisir un mari, je me mets sans doute toujours le doigt dans l'œil. Et peut-être qu'un jour, je vais m'en mordre les doigts, car je lui ai dit non. Alors croisez les doigts pour qu'un jour, un autre me fasse sa demande. En voici la traduction. Paul m'a demandé en mariage. J'étais sur le point, c'est-à-dire que j'étais prête, à lui dire oui. Bien sûr qu'il est maladroit, mais la choucroute qu'il préparait était délicieuse. C'est d'ailleurs grâce à sa cuisine qu'il m'avait facilement séduite. Il savait parfaitement ce que j'aimais. Mais voilà, pour choisir un mari, je me trompe sans doute toujours. Et peut-être qu'un jour, je vais le regretter, car je lui ai dit non. Alors, souhaitez-moi bonne chance pour qu'un jour, un autre me fasse sa demande. La presse ne parle que de cela depuis quelques jours. De quoi ? Du nouveau joujou de Steve Jobs, le PDG d'Apple. L'iPad, tel est le nom de ce nouveau gadget. C'est une tablette tactile, c'est-à-dire qu'on fait tourner les applications en touchant l'écran du doigt. Grâce à cette tablette, on peut regarder des films, écouter de la musique et naviguer sur le web. Elle permet aussi de travailler, de jouer aux jeux vidéo et surtout de télécharger d'une librairie en ligne des romans dont les pages seront lues sur cet écran. 5 des plus grands éditeurs du monde auraient déjà passé un contrat avec Apple. On peut aussi télécharger et lire son journal, qui sur l'écran se présente comme une mise en page papier. Mais à la place d'une image fixe, on a des vidéos ou des portfolios. Tourner les pages du journal sur son écran ferait le même bruit de papier qu'une vraie page de journal qu'on feuillette. Ce petit joujou coûte la bagatelle de 500 euros, sans compter les droits d'accès aux livres et aux journaux. Alors moi, je n'ai qu'une question. À quoi ça sert ? Encore le besoin d'avoir, de posséder le dernier gadget à la mode ? De perdre peu à peu le contact avec le réel ? Alors je m'imagine chez moi un samedi matin. Après avoir, grâce à la Wii, fait une partie de tennis sur un terrain virtuel aux Antilles et pris une douche, j'en profite pour l'instant, je me lave encore avec de la véritable eau. Je vais lire le journal. Mais au lieu de sortir de chez moi l'acheter au kiosque, je m'installe confortablement sur mon canapé. Mets mes lunettes 3D, télécharge mon journal sur mon iPad et tourne les pages avec mon index tout en étant émerveillée par ce bruit qui me rappelle celui que fait le vrai journal papier. Puis je télécharge un film ou une série pour me changer les idées, car les informations resteront toujours aussi déprimantes. Ou alors je me promène dans ma librairie en ligne et mets une heure pour choisir un livre. Comme j'ai encore un peu d'humanité en moi, je me dis que cela fait déjà plus de 8 heures que je n'ai pas eu de contact humain. Alors j'irai dans ma messagerie pour chatter avec mes amis du monde entier. Mais le monde entier est occupé et personne n'est en ligne. Alors je serai la super-héroïne d'un jeu d'action. Et après avoir tué 15 zombies, 16 extraterrestres et sauvé 2 fois le monde, mon chéri m'appellera pour dîner. Tout à coup, la vie me paraîtra bien fade. Cette semaine, j'ai appris à construire un igloo. Oui, vous avez bien entendu. Nous vivons dans un monde de technologie, mais enfin, il est peut-être utile de savoir construire un igloo. C'est un groupe de copains qui, depuis 5 ans, sur les hauteurs de Cours, une petite ville du Jura, construit un igloo. Et pas un petit. Cet igloo est large de 4,60 m. 15 personnes peuvent y entrer. Alors un soir, j'ai participé à sa construction. Les hommes découpaient des blocs de glace à la tronçonneuse. Pour cela, bien sûr, ils avaient tassé de la neige. Le froid et l'humidité l'avaient durcie et au bout de quelques jours, elle était prête à être découpée. Disposés en cercle, les blocs ont été recouverts de neige. Il y a presque 1 mètre de couche de neige autour des blocs de glace. Je ne sais combien de mètres cubes de neige a été utilisé, mais je sais que ce sont une centaine d'heures de travail. Tous les soirs depuis quelques semaines, une, deux ou huit personnes participaient à l'ouvrage. Le soir où moi-même j'y ai participé, mon rôle était de tasser la neige qui recouvrait les blocs de glace. Dans l'igloo, après avoir lissé les murs, on y a mis une table et des chaises. C'est un véritable petit chalet de glace. C'était très sympathique et assez féerique de participer à sa construction. Il faisait nuit et il neigeait. Je me suis imaginée être inuite dans le Grand Nord. Je ne sais pas si les Inuits mangent de la fondue au fromage, mais enfin, c'est ce que nous avons fait. Quelques jours plus tard, nous sommes montés sur la montagne jusqu'à l'igloo à pied, avec nos luges, nos ustensiles de cuisine, le fromage et les bouteilles de vin. S'il fait froid dans un igloo? Non. Bon, il ne fait pas plus de quelques degrés au-dessus de zéro. Mais avec la chaleur des réchauds, de la fondue, la chaleur humaine et avec quelques verres de vin, je vous assure qu'on y est très confortablement installé. Et c'est rigolo, car au bout de quelques heures, il y a tellement de condensation qu'on ne voit même plus son voisin. Enfin, la soirée se termine par des fous rires, car c'est en luge qu'on est descendu de la montagne. Vous voyez, le bonheur, c'est simple comme une bonne fondue partagée dans un igloo quelque part sur une montagne. Un jour, peut-être, pourrons-nous construire un igloo dans son salon grâce à une image de synthèse, simplement en touchant l'écran virtuel du doigt, et manger une fondue sous forme de pilule. Quelle horreur ! Je vous laisse, je vais encore profiter de la vraie vie, et vous invite à en faire de même. Laissez-moi aussi vos réactions sur www.podclub.ch. Je vous retrouve dans 15 jours et vous parlerez sans doute de la crise du logement en France et de Carnaval. D'ici là, profitez. À bientôt.
Vous trouvez la version écrite de cet épisode sous www.podclub.ch. À propos, dans les écoles clubs, vous pouvez vous préparer pour tous les diplômes de français. Consultez notre site web et n'hésitez pas à vous inscrire. Par exemple, pour un cours avec diplôme d'ELF ou d'ALF. Nos adresses de site web sont les suivantes. www.clubschule.ch, www.ecoleclub.ch et www.scuolaclub.ch. Thank you.